T'as l'air nul.
Pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
Donc là, là t'es en train de... T'es en train d'enregistrer.
On n'entend rien du tout.
Mayday. Si, Mayday. Écoute bien.
Mayday. Veuillez prêter la plus grande attention.
Au cas où, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio.
Mon message suivant.
Tu décrirais ça comment, toi, Mayday?
Une émission un peu kaléidoscopique.
À quoi ça sert? C'est quoi le but?
Ça résonne dans tous les sens. Avec des couleurs.
Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient... totalement confus.
Et quand finit le scénario?
Tous les mercredis. Tous les mercredis.
Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Canu.
Hop, je me suis emmêlée, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
Mayday, saison 7. 7.
Monsieur, vous ne pouvez pas passer par ici sans votre billet.
Mais je ne prends pas le train, moi je suis...
Oui, vous êtes accompagnateur, j'ai compris monsieur. Mais même pour aller seulement sur le quai, ça n'est pas possible sans un billet valide.
Oui, non mais très bien, mais je n'accompagne personne, je viens pour...
Oui, pour dire au revoir, n'insistez pas. Montrez-moi vos papiers monsieur, s'il vous plaît.
Oui, alors...
Vos papiers?
Oui, alors là, vous allez rire, mais je n'ai pas mes papiers sur moi. Par contre, j'ai une note que j'ai...
Une note?
Oui.
Il a une note, une petite feuille chiffonnée, tant qu'on y est. Non, mais d'où venez-vous, monsieur?
De l'intérieur.
C'est pas drôle, monsieur. Je vais devoir appeler du renfort. Michel?
Oui?
Viens par ici, j'ai un souci. Nous allons devoir procéder à une reconduite à la frontière, peut-être.
Bonjour, monsieur Retailleau.
Ah.
Comment ça, monsieur
Retailleau? Hein? Bonjour.
Monsieur Retailleau? Oui. Non, mais... Mais vous êtes Bruno Retailleau? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je suis vraiment désolée, monsieur Retailleau, mais avec la directive du ministère, enfin de vous, là, depuis ce matin, j'arrête, j'arrête pas d'arrêter. Je vous demande pardon, je suis confuse. Je vous présente, je vous rends mon tablier. Mes hommages, monsieur Retailleau, excusez-moi, monsieur.
Depuis ce mercredi matin et jusqu'à demain soir, les contrôles de migrants sont renforcés dans les gares, à bord des trains et des bus, en particulier ceux à destination ou à l'arrivée de pays voisins. Cette opération nationale de lutte contre l'immigration irrégulière a été lancée dans le cadre d'une note d'instruction du ministère de l'Intérieur adressée aux préfets, aux généraux d'armée, aux directions de la gendarmerie et de police ainsi qu'aux douanes.
Elle fait suite à une précédente, puisque les 20 et 21 mai dernier,
une opération nationale de contrôle des flux
avait déjà donné lieu à l'interpellation de 750 personnes.
Contrôle d'identité, monsieur. Vos papiers.
Encore ?
Je vous ai demandé vos papiers.
Oui, non, mais j'avais compris, mais pourquoi moi ?
Un contrôle aléatoire, monsieur.
Alors, permettez-moi d'en douter, monsieur l'agent.
Comment ça ?
C'est la troisième fois aujourd'hui. Ça tombe encore sur moi, c'est intolérable.
Qu'est-ce que vous insinuez ?
Oh, c'est pas la peine de faire celui qui ne comprend pas.
Pardon ?
Oui, bien sûr. Vous savez très bien ce que vous faites.
Mais attention à ce que vous dites, monsieur.
Mais comme par hasard, parce que je porte des lunettes et que j'ai une raie sur le côté.
Ce que vous venez d'entendre, c'est de la fiction. Dans la réalité, le délit de faciès existe bien, mais pas selon ces critères. L'homme qui porte des lunettes et qui a une raie sur le côté a annoncé que
4000 gendarmes, policiers, douaniers et forces sentinelles sont mobilisés pour interpeller des clandestins qui ne sont pas les bienvenus en France.
L'homme qui porte des lunettes et une raie sur le côté a fièrement dit
« Depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. »
Et il aurait pu tout aussi bien dire
« La lutte contre l'immigration, c'est moi. »
Cette politique de contrôle aux faciès, d'interpellation, d'arrestation, de reconduite à la frontière n'est pas nouvelle. Il y a 10 ans, en juin 2015, les autorités françaises commençaient à instaurer un contrôle systématique à la frontière franco-italienne.
Cette réintroduction du contrôle aux frontières intérieures a été officialisée en novembre 2015, au motif des attentats du 13 novembre. Depuis lors, la France reconduit ce dispositif tous les 6 mois.
En 2018, ce dispositif est donc reconduit comme aujourd'hui. En 2018, Mustapha, Ousmane et Mohamed ont fui la Guinée. Certains se sont échappés de prison, d'autres rêvaient simplement d'une vie meilleure. Ils ont traversé la frontière et ils ont suivi les routes de l'exil depuis l'Afrique de l'Ouest. Celle de la traversée du Sahara, puis les geôles libyennes, les embarcations précaires surchargées qui chavirent en Méditerranée. L'arrivée miraculeuse sur l'île italienne de Lampedusa. Le placement dans des camps d'accueil ou de travail, ou les deux, en Italie.
On est au début de l'année 2018. Mustapha, Ousmane et Mohamed sont à Lyon depuis quelques jours quand ils témoignent à notre micro.
Quelques mois plus tard, Blessing Matthew, une jeune femme nigériane, cherchera elle aussi à passer la frontière italo-française entre Clavière et Briançon. Cette frontière montagneuse où depuis 10 ans, plusieurs dizaines d'exilés sont morts.
Mais n'allons pas trop vite et reprenons d'abord cette route de l'exil de l'autre côté des Alpes, au nord de l'Italie, dans le village de Gattinara, où en 2018, les autorités italiennes déplacent des migrants venus du sud.
Ils m'ont amené à Gattinara, dans un village vers les Alpes, tu vois. Tu vois, dans le village, on ne nous apprenait pas la langue italienne. Et tu sors à 20h, tu ne te rencontres pas avec assez de monde. Tu peux pas t'intégrer, quoi. Après, je me suis dit, pourquoi pas aller en France, alors. Je connais la langue un peu.
Je suis parti à la frontière. J'ai essayé plusieurs fois de rentrer en France par Briançon. À chaque fois, quand on va, on nous ramène. Souvent aussi, les policiers ils nous frappent. Un soir, où il faisait froid dans les montagnes, quand la police de la France m'a pris, ils m'ont fait rentrer dans une salle, ils ont allumé la climatisation jusqu'au matin. Ils m'ont arraché mon blouson avec ma capuche, tout et tout. Le matin, quand ils m'ont remis à la croix rouge italienne, j'arrivais même pas à marcher. Puis c'est tout, mes pieds, ça, c'était un peu enflé, c'était gelé. Je sentais plus mes pieds, quoi. Avec d'autres amis, on a repris la route, on est revenu.
C'était le 13 août, je pense, je me rappelle de la date parce que c'est une cicatrice, tu vois. On a commencé de marcher à 22h. De 22h à 5h. On était proche de Briançon, tu vois. On était proche de là-bas et on s'est rencontrés avec les flics. Et quand j'ai vu la phare, je me suis barré et du coup ils sont descendus, c'était les flics, ils ont attrapé certaines. J'étais avec un mec ivoirien, on s'est caché quelque part là-bas. Et heureusement on s'est rencontré avec une dame française. Elle nous a appris, elle nous a amené chez elle, elle nous a donné du café. Et on a resté chez la dame, on s'est lavé bien, on a dormi. On s'est arrivé à 9h, elle nous a accompagnés dans sa voiture. On est venu à l'assaut.
Il y a une association aussi à Briançon, les Français qui s'occupent des immigrants. Donc c'est comme ça, je suis resté là-bas pour 2 semaines. Et après, nous avons eu la chance parce que c'est une dame qui nous a apporté à Grenoble, là où nous sommes restés pour 2 jours. Et après, nous avons continué directement à Lyon.
Avec ton sac, ta brosse à dents, ton drap, au fait, le nécessaire, quoi. Les gens, ils te voient dans la rue, tu es comme un fou, quoi. Tu deviens comme un zombie.
La première des choses, c'est d'avoir sa patience, être patient et de gérer sa vie de telle sorte d'oublier le passé, se rattraper toujours au présent.
J'ai ma copine d'abord ici, tu vois. J'ai mes copains aussi, tu vois. Là, je commence à construire plein de trucs avec plein de copains, plein d'amis, tu vois, avec plein de moments cool, tu vois. J'arrive à m'intégrer, quoi, tu vois, s'ils acceptaient que je vive ici. Moi, c'est cette vie que je veux, quoi, vivre tranquille où j'ai pas de peur. C'est fini, c'est tout ce que je veux, moi.
Moi, quand même, moi, je vais pas mentir, la France que j'avais rêvé, qu'on m'avait enseigné l'histoire d'où et tout, c'est pas ce que j'ai vu en réalité, au fait. Mais bon, je suis là.
Je m'appelle Rebecca Manzoni et j'écoute Mayday tous les mercredis à 18h sur Radio Canu.
Je
vous allez écouter dans peu de temps travaille sur l'histoire de la frontière franco-italienne.
Avant 1995, la frontière est fermée.
Casernes le long des routes transfrontalières, post-frontières, un ou deux agents contrôlent les déplacements.
En 1995, c'est l'idéal d'une Europe sans frontières, les accords de Schengen.
On veut aller manger une pizza côté italien.
Ou descendre une piste noire de l'Italie vers la France sur le domaine transfrontalier de Montgenèvre.
Les barrages volants ont remplacé les postes frontières. Les contrôles ne sont plus fixes, mais mobiles et aléatoires. Ils ont lieu dans une bande de 20 km en amont de la frontière.
Comme les contrôles cessent d'être visibles, les habitants et les touristes croient qu'il n'y a effectivement plus de contrôle.
Mais en 2015, sous Hollande, Cazeneuve à l'intérieur, la France veut rétablir les contrôles permanents à la frontière italienne, soi-disant pour lutter contre le terrorisme.
Sauf qu'un tel retour en arrière n'est plus possible. Ce serait trop coûteux d'empêcher, ralentir, contrôler les milliers de passages par jour.
Les personnes qui travaillent d'un côté et qui rentrent de l'autre côté le soir, les flux touristiques, ce serait trop coûteux de mettre en péril l'insouciance européenne.
Alors, ils décident de laisser les contrôles mobiles.
Mais en les renforçant, une présence policière permanente, les gendarmes, la police aux frontières, les réservistes, les militaires sentinelles et la coopération policière franco-italienne qui se durcit.
Ils ajoutent des points de contrôle permanents, comme à la gare de Menton-Garavant où ils regardent, jettent un coup d'œil. Ils font du profilage.
Enfin, il y a les patrouilles mobiles qui circulent dans les montagnes, 4x4, motoneige ou à pied, sur les chemins de randonnée.
La frontière franco-italienne, c'est pas un mur, on s'en doute, mais des patrouilles mobiles omniprésentes.
Puis, le marketing de la région repose sur le fait que les touristes ne voient pas le dispositif de contrôle, que ça ne vienne pas gâcher leurs vacances.
Ça a conduit Sarah à se demander comment un tel dispositif a pu être construit. Un dispositif qui serait à la fois hyper visible pour une catégorie de personnes, les migrants, et en même temps complètement invisible pour plusieurs autres catégories de personnes, les habitants, les touristes.
Ce dispositif, il se construit, dit Sarah, à partir d'une différence de visibilité.
D'abord, il y a la mise en spectacle de la frontière. En fonction de l'agenda politique, il peut y avoir une focale sur l'immigration. Et alors, on envoie les hélicoptères, on bloque toutes les routes et on systématise, face caméra, les contrôles de chaque voiture. C'est aussi souvent le moment choisi par des groupuscules fascistes comme Génération Identitaire en 2018 de se pointer et de patrouiller aux côtés des flics. Ça, ça dure quelques semaines. Puis après, tout le monde repart.
Le reste du temps, c'est plutôt soit une présence discrète, des rondes en voiture banalisées, en tenue de camouflage, etc. Soit une présence invisible, avec des tracts très très resserrés.
L'équipement des forces de l'ordre devient alors particulièrement performant. Il faut voir sans être vu. Les gendarmes anticipent les trajectoires des personnes migrantes après échange avec les forces de l'ordre italiennes. Ils sont camouflés. Ils ont des lunettes infrarouges, du matériel de détection sensorielle. Ils installent des pièges, se mettent en embuscade, etc. Et depuis 2022, ils commencent à faire des missions avec des drones.
Du côté des personnes migrantes, plusieurs stratégies de passage sont mises en place. Il faut se faire discret, se coucher dès qu'il y a du bruit, dès qu'ils voient des phares de voiture, des lampes torches. Mais aussi, surtout, ils essayent de monter haut, le plus haut possible pour ne croiser personne, et dans le même temps, ne jamais demander d'aide. Certains se font passer pour des touristes, mais c'est rare.
La stratégie la plus commune, c'est celle du passage de nuit, parce qu'ils et elles pensent que la nuit va les rendre invisibles. Mais c'est aussi la plus dangereuse, parce que c'est paradoxalement celle où ils sont le plus visibles. Dès qu'ils allument leur téléphone pour voir leur GPS se repérer, ou bien simplement pour éclairer leur chemin, ils sont aussi visibles à partir des caméras thermiques que utilisent les gendarmes sur les montagnes.
Souvent, la mise en danger est attribuée à la montagne.
C'est le froid. Il est mort d'hypothermie.
Elle est tombée dans la rivière. C'était une mauvaise chute.
Le travail que Sarah a mené aux côtés des membres de Border Forensics, c'est de prouver que les morts des personnes migrantes à la frontière franco-italienne résultent des tracts des forces de l'ordre et qu'elles sont invisibles si on ne se met pas, nous aussi, à utiliser les outils de technologie visuelle, ces mêmes outils qu'on a l'habitude de dénoncer.
je suis Sarah Bachalry. Je suis récemment docteur en géographie. Et sinon, par ailleurs, je suis arrivée en fait à la recherche sur les frontières, parce que c'est ce sur quoi je travaille, plutôt par les luttes. Donc j'ai pas mal milité aux frontières pendant plusieurs années. Et en parallèle de mes études. Et donc après, j'ai décidé de continuer à travailler sur ce sujet plutôt par l'angle de la recherche. Blessing Matthew, c'est une jeune femme nigériane de 20 ans qui est décédée dans le Briançonnais. Au moment où moi, je faisais mon premier terrain là-bas, donc en 2018, juste pour donner un tout petit peu le contexte, c'était une période très tendue parce que c'était le moment où il y avait Génération Identitaire qui était venue faire une manifestation à la frontière. Ça avait été très médiatisé. Du coup, suite à Génération Identitaire, il y avait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui avait dit, les solidaires, vous êtes des passeurs, vous encouragez les gens à passer la frontière, etc. Donc, il y avait eu une contre-manifestation citoyenne qui était partie de Clavière du côté italien vers Briançon. Suite à cette manifestation, il y a 3 manifestants qui ont été arrêtés, qui ont été placés en détention provisoire à Marseille. Génération Identitaire était encore sur le territoire à faire des patrouilles de police aux côtés de la police. Donc, moment très tendu. Et là-dessus, du coup, Gérard Collomb a envoyé des renforts de gendarmerie mobile sur le territoire pour le contrôle de la frontière. Et c'est ces gendarmes mobiles-là qui sont impliqués, en fait, dans la mort de Blessing. Et du coup, Blessing Matthew, son corps a été retrouvé le 14 mai 2018 dans la Durance, en aval de Briançon, dans un barrage. Donc elle n'a pas été identifiée tout de suite. Au début, c'était juste une jeune femme noire a été retrouvée. Voilà, les médias ils disent à ce moment-là, sans doute une migrante. Donc du coup, moi, j'ai vécu ça dans le milieu associatif. Donc du coup, dans ces moments-là, on cherche, on essaye de voir est-ce qu'elle avait des compagnons de route, est-ce qu'on peut retrouver ses compagnons de route, etc. Et il s'avère qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Roland, qui est aussi nigérian, et qui avait signalé la disparition d'une de ses compagnes de route dans la nuit du 6 ou 7 mai. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc, Blessing, Roland et Hervé, qui est leur troisième compagnon de route, comme la plupart des personnes migrantes à l'époque, ils étaient passés par l'église de Clavière, qui était occupée par des militants. Et ensuite, Roland est le seul des trois à être parvenu au refuge solidaire, qui est aussi un lieu d'accueil à Briançon. Et une fois qu'on est parvenu au refuge solidaire, en gros, on est en sécurité. Et donc, ce qui s'est passé, ça s'est passé entre Clavière et Briançon, donc dans la fameuse zone des 20 km où il y a des courses-poursuites, des contrôles mobiles, etc. Donc, Roland, il avait signalé, quand il est arrivé au refuge, que... une fille avait disparu, qu'ils avaient été poursuivis par la police, etc. Donc les associations, elles ont fait un signalement au procureur, directement, en disant, retranscrivant le témoignage de Roland, en disant qu'il y avait une embuscade, etc. Le procureur, suite à ça, il a ouvert une enquête. En parallèle, donc grâce notamment à Roland, et il y avait une enquête policière pour identifier le corps, c'est ce qui se fait généralement. Donc ils ont pu identifier que c'était Blessing Matthew, que... Elle a 2 sœurs en Italie, il y a une de ses sœurs qui est venue pour identifier le corps, etc. Donc c'était sûr que c'était elle. Elle a été enterrée dans le Briançonnais, donc on a organisé l'enterrement avec les associations, etc. En fait, très vite, du côté des associations, il y avait la certitude, à cause du témoignage de Roland, qu'elle était morte suite à une course-poursuite policière et qu'il fallait éclaircir en fait, les circonstances de sa mort. Et en fait, le cas de Blessing, il est très particulier parce qu'il y a eu... Il y a eu 61 morts à la frontière franco-italienne, 61 personnes migrantes décédées à cette frontière depuis 2015. Et Blessing, c'est la seule pour laquelle il y a eu une enquête policière qui a été vraiment menée jusqu'au bout pour établir les circonstances de cette mort. Donc c'est un cas qui est vraiment très important en fait aussi pour tous les autres, quoi. Et là, en plus, il y avait la famille qui ensuite, suite à la première enquête du procureur, la famille a porté plainte. Donc ça a fait qu'il y a eu une instruction au pénal, quoi. Et donc, du coup, l'enquête, elle a été menée par la police judiciaire, quoi, pendant 8-9 mois. Donc, les conclusions, elles ont été rendues en décembre 2018. Et les conclusions de l'enquête, c'est de dire, en gros, que donc il y avait bien des gendarmes mobiles qui patrouillaient cette nuit-là. Il y a eu une interaction possible entre eux et Blessing et ses 2 compagnons de route, mais en aucun cas ils ont mis en danger Blessing. Ça n'a aucun lien avec la mort de Blessing, qui est survenue sans doute plus tard, sans qu'on sache pourquoi, etc. Et voire même, les conclusions de l'enquête, elles disent même que les gendarmes ont essayé de les protéger. Enfin, elles vont même abondamment dans l'autre sens. Donc, suite à ça, Tous Migrants, une association locale et la sœur de Blessing ont porté plainte. Ça a été classé sans suite. Ensuite, ils ont fait appel. Ça a été rejeté. Voilà, donc ça, il y a eu tout un parcours judiciaire comme ça pendant quelques années. Et en gros, en 2021, beaucoup plus tard, il y a eu une rencontre entre Tous Migrants et une agence qui venait de se créer qui s'appelle Border Forensic, qui utilise donc une méthodologie de recherche qui s'appelle l'architecture forensique. L'architecture forensique, ça consiste à utiliser des méthodes notamment de reconstruction spatio-temporelle, donc visuelle, souvent, ça peut prendre différents formats, des vidéos, des maquettes, des cartes, etc. Et elles mettent ça au service d'acteurs de la société civile dans des cas de violation de droits humains. Et pour faire la vérité sur des faits de violation de droits humains. Et donc, du coup, de cette rencontre entre Tous Migrants et Border Forensic est née l'idée de faire une enquête, une contre-enquête en fait, pour motiver la réouverture de l'instruction judiciaire. Parce qu'en gros, pour demander une réouverture d'une instruction judiciaire, il faut avoir des nouveaux éléments. Et donc, du coup, l'idée, c'était que la contre-enquête de Border Forensic soit le nouvel élément qui permette cette réouverture. J'ai été intégrée au collectif de recherche, donc on était un collectif de plusieurs personnes qui avons mené cette enquête. Il y avait Charles Heller et Lorenzo Pezzani qui ont fondé Border Forensics. Il y avait moi et Christina Del Biagio qui sommes géographes. Et Svetlana Lavenstruck, je prononce mal son nom, qui est architecte, qui a fait toute la partie visualisation. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, des cinéastes, parce qu'il y a une partie documentaire, donc des gens qui ont pris le son. Et on a travaillé donc avec Tous Migrants, avec les sœurs de Blessing, avec un avocat qui a donc fait toute la partie judiciaire, et avec Mediapart qui a sorti l'enquête en fait le jour de la demande de réouverture de l'instruction. Voilà, et donc notre enquête, elle a été publiée en 2022. Et juste pour finir cette histoire de processus judiciaire, le procureur a donné sa réponse trois semaines peut-être après la réouverture de la demande de réouverture, en disant que pour lui il n'y avait pas de motif suffisant pour réouvrir l'enquête judiciaire, sachant qu'en plus de notre contre-enquête il y avait un témoignage inédit qui était le témoignage d'Hervé, le second témoin et compagnon de route de Blessing, qui n'avait jamais été entendu par la police. Et le procureur dit que les mots exacts qu'il utilise, c'est « son audition n'est pas utile à la manifestation de la vérité ». Alors que Hervé, en fait, met directement en cause les gendarmes, puisqu'il a vu Blessing tomber à l'eau. Donc voilà, donc la justice française n'a pas réouvert l'enquête, et ensuite on a fait une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a aussi été rejetée l'année dernière. Sur le plan judiciaire, l'affaire Blessing, c'est vraiment au point mort. Pour l'instant, ce qui n'empêche que du coup, il y a quand même eu cette contre-enquête citoyenne qui a été faite, qui ne permet pas du tout d'avoir toutes les réponses, mais qui permet de poser des questions très argumentées, en notant qu'il y a vraiment matière à avoir des très très forts doutes quant à la responsabilité directe des gendarmes dans la mort de Blessing. En tout cas, dans sa chute dans la rivière, qui a sans doute été mortelle immédiatement, quoi.
L'État maîtrise caméras de vidéosurveillance, satellites, drones et communique avec les entreprises publiques et privées sur les données de surveillance qu'elles récoltent. Il contrôle ainsi tout le champ du visible. Quels moyens nous reste-t-il alors pour prouver les crimes d'État ?
Si l'architecture, et là c'est pas seulement les bâtiments, mais tout dispositif architectural qui contient et contrôle une population, ça peut être des murs, une enceinte, un checkpoint, une frontière, etc. Donc si l'architecture est une arme, au sens où elle surveille, arrête, emprisonne, alors il est possible d'utiliser les moyens de l'architecture, conception, modélisation, maquette, photogrammétrie, pour observer les crimes commis par l'État. Dans Border Forensics, il y a le mot forensic, qui désigne initialement le médecin légiste, celui qui autopsie le cadavre et détermine les conditions de la mort. Les membres de Border Forensics se donnent pour travail d'autopsier une frontière, c'est-à-dire d'exposer chacune des zones où un meurtre a eu lieu, ouvrir la boîte noire d'un territoire et en déduire ce qui a causé la mort.
Forensics, ça vient aussi de forum, avec l'idée de pouvoir présenter les faits devant un public, de ne pas les laisser cachés dans les archives de la police. Les contre-enquêtes de Border Forensics consistent donc à retourner les outils visuels qui nous surveillent, les rendre visibles, créer des relations entre les images, dépister les fausses images, en gros, retourner le regard de l'expertise et faire entendre les voix de celles et ceux qui sont invisibilisés.
Selon Hervé et Roland, ils ont aperçu des torches de la police à un moment où ils entraient dans le village. Ils ont couru. La police leur courait après. Il y a eu un moment de... Donc ça, c'est Hervé qui le raconte, où ils se sont sentis pris en tenaille parce que les policiers arrivaient des deux côtés. Ils en avaient deux derrière eux et deux autres qui arrivaient par un autre chemin, à pied. Et ensuite, Roland, il a tourné avant le pont, il s'est caché. Donc lui, après, il est resté caché jusqu'à 11h du matin, donc il a complètement échappé au contrôle, etc. Et Hervé et Blessing, donc eux, ils se sont retrouvés pris en tenaille. Et donc à ce moment-là, ils sont dans le centre du village, et en face d'eux, il n'y a qu'un pont. Et donc ils ont traversé le pont, et derrière le pont, on va à gauche, et en fait, ils sont descendus dans un jardin qui est en bas d'une église. Et ce jardin, il donne sur une rivière. Hervé, il s'est caché, en fait, entre des herbes qui étaient un peu hautes et des maisons, etc., sur le côté. Alors que Blessing, elle allait plus lentement parce qu'elle s'était blessée à la jambe. Et donc du coup, elle était encore en train de descendre les escaliers quand les policiers sont arrivés derrière elle. Et donc il y a un policier notamment qui l'a poursuivie à travers le jardin. Et elle avançait tout droit et elle voyait rien parce que c'était... c'est toute la question d'ailleurs de la luminosité, elle est très très importante pour comprendre les événements parce que donc, c'était... Selon les témoignages, on ne situe pas du tout les événements à la même... À la même heure, et effectivement, autant en journée on voit très bien, autant la nuit, enfin d'après Hervé en tout cas, on voyait pas en fait. Donc elle traverse le jardin et là elle se heurte à la rivière en fait. Elle avait pas compris qu'il y avait une rivière aussi proche.
Là tu arrives à peine à voir Blessing à travers les herbes, mais tu vois Blessing à travers les herbes.
Oui. À partir de là où Blessing est, quand elle arrive, elle s'arrête. Parce que ça ne veut pas qu'il y a une rivière. C'est là qu'elle veut chercher à traverser. Donc, en descendant, elle a posé sa main. Il faut prendre appui pour descendre plus près pour chercher à traverser. Le policier est parti la retrouver en bas.
Donc, il y a un moment où le policier touche Blessing. Tu vois qu'il la touche.
Et il arrête sa main.
Il arrête sa main.
Et sa main d'appui quand elle descendait.
Elle prend comme ça.
Et il arrête comme ça. C'est là que Blessy crie « Lift me, lift me, lift me ». Mais après, c'est comme si quand elle s'est défendue aussi, elle a tapé la main du policier. Le policier a lâché. Elle est tombée. Dès qu'elle est tombée, elle a commencé à crier, elle est mise, elle est mise, elle est mise. Au fur et à mesure qu'elle criait, elle est mise, ça s'éloignait.
Thank you.
dans le récit des gendarmes, toute l'interaction dans le village est complètement différente d'un récit à l'autre. Il y en a qui disent qu'ils étaient en voiture, d'autres qui disent qu'ils étaient à pied, il y en a qui disent qu'ils ont vu les trois personnes et qu'ils les ont effectivement suivis, d'autres qui disent qu'ils les ont jamais vus. Il y en a qui disent que ça se passe en plein jour, d'autres qui disent que ça se passe en pleine nuit. De toute façon, dans cette enquête, en fait, il y a ce que j'ai dit dans ma thèse, c'est qu'il y a trois niveaux d'effacement. Il y a un premier niveau d'effacement qui est que, paradoxalement, alors que les gendarmes, ils utilisent des drones, ils prennent des notes, ils ont plein de systèmes d'enregistrement, comme par hasard, quand il s'agit d'enregistrer leurs actions, aucune trace, rien. Deuxième niveau d'effacement, c'est des témoignages complètement contradictoires, on ne comprend rien, des incohérences constantes sur la luminosité, la temporalité, la spatialité, etc., qui brouillent complètement les pistes et qui font qu'effectivement, je pense, un juge qui n'est pas allé sur place et qui se retrouve face au dossier ne comprend rien. Voilà. Et un troisième niveau d'effacement, c'est la manière dont l'enquête de police judiciaire a été menée, parce que ça, c'est hyper grave. Et ce qu'on a vraiment démontré dans l'enquête de Border Forensics, c'est que non seulement on est face à 11 gendarmes qui font des témoignages complètement contradictoires, brouillés, brouillons, enfin voilà. Mais derrière, on a un enquêteur, enfin des enquêteurs, parce qu'ils sont plusieurs à recueillir les témoignages, mais après, il y a un major qui est en charge de l'enquête, et c'est lui qui rend les conclusions. Et c'est lui qui est venu sur place, d'ailleurs, quand même, pour constater les faits, prendre quelques photos, etc. Et bien, ce major, dans ses conclusions, au lieu de souligner toutes ces contradictions, ce qui serait objectivement juste la chose à faire, il reconstitue une version homogène en recréant une fausse cohérence dans les témoignages des gendarmes. Du coup, il efface complètement certains aspects. Et en plus, il va encore plus loin parce qu'il leur prête des intentions qu'eux-mêmes ne disent pas avoir eues, d'avoir cherché à protéger Blessing, d'avoir fait changer le dispositif pour les éloigner de la rivière, alors qu'aucun gendarme ne parle de ça. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment ce troisième niveau d'effacement, en fait, qui est fait dans la réalisation de l'enquête de police judiciaire. Donc, on a vraiment tous ces verrous-là, en fait, qui se mettent en place et qui sont terribles, en fait, parce que derrière, on a quand même au moins un témoin qui n'a jamais été auditionné. Enfin, voilà, on dit, en fait, ce qu'il a à dire, tout le monde s'en fiche, alors que c'est la seule personne qui a vu Blessing tomber dans la rivière. Donc, voilà, nous, on a reconstitué jusqu'au moment où Blessing est tombé dans la rivière. Et là, on va sans doute faire une deuxième enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé après sa chute. Enfin, parce que les témoignages continuent pendant longtemps après, mais c'est tout aussi fouillis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant des heures, etc. Et en fait, un des points très perturbants, c'est que la veste et le foulard de Blessing ont été retrouvés en amont de son point de chute. Du coup, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, donc là-dessus, nous, on ne peut pas établir des conclusions, mais en tout cas, ça pose vraiment beaucoup des questions de savoir est-ce que son corps a pu être déplacé, ou en tout cas des affaires qu'elle aurait laissées qui ont pu être déplacées, peut-être pour faire croire qu'elle serait pas tombée là où elle est tombée. Enfin voilà, ça pose beaucoup de questions en tout cas. Donc là aussi, on est en train de faire des reconstructions avec des hydrauliciens pour essayer de modéliser la dérive du corps et essayer de comprendre est-ce qu'elle a vraiment pu dériver depuis cet endroit jusqu'à là où elle a été retrouvée naturellement ou pas. Et selon quelles conditions. Enfin voilà, on essaie aussi de reconstituer les conditions météorologiques du débit de la rivière, etc. Souvent vérité et justice, c'est une étape de franchie dans la vérité. On n'est pas au bout de la vérité encore, hein. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas connues et qu'on sait pas. Et la justice aurait les moyens d'aller beaucoup plus loin en fait dans la recherche de la vérité. Mais en tout cas, on a essayé de pousser au maximum de ce qu'on pouvait avec les outils, des outils scientifiques, des outils des militants, des outils de la justice, avec l'usage du droit, etc. On a essayé de pousser au maximum de ce qu'on pouvait, cette recherche de la vérité. Des fois, on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir toute cette énergie? C'est tellement de travail, on a passé 2 ans à travailler juste sur la première partie de l'enquête. Là, on se dit qu'on va continuer l'enquête parce qu'on a trop d'éléments qu'on a envie de publier, mais c'est des années de travail juste sur un seul cas. Alors qu'il y a 61 personnes qui sont décédées à cette frontière juste depuis 2015. Et voilà, on parle même pas de Calais, enfin voilà, des autres frontières françaises. Enfin aussi, ben voilà, quand on engage une équipe de recherche, il y a des coûts avec ça. Enfin voilà, est-ce que ça vaut le coup, tout cet argent, cette énergie qui est investie, etc. Et en même temps, ce cas-là, il permet de faire un peu vérité et justice pour tous les autres. Parce qu'en fait, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des pratiques de mise en danger systématique, c'est Blessing, mais c'est pas que Blessing. C'est Blessing, mais tous les gens qui sont morts à cette frontière et qui sont morts parce qu'il y a des pratiques policières qui mettent en danger les personnes en migration. Enfin voilà, les morts, ils peuvent. Ils n'ont pas de justice parce qu'ils ne sont pas identifiés, parce que leurs familles sont loin, parce que personne n'osera jamais porter plainte. Les vivants, ils ne portent pas plainte parce qu'ils ont peur des représailles de l'État. Et c'est pour ça qu'il y a ce système d'impunité qui continue. Donc des fois, en fait, avec un seul cas, on peut peut-être essayer de faire changer les choses pour tout le monde parce qu'on arrive à aller plus loin, en fait, dans ce cas-là, qui est le seul cas où on a pu avoir une enquête judiciaire. Il y a la famille derrière. Voilà, on le connaît bien maintenant. Et en plus, c'est un cas emblématique parce qu'il y a beaucoup de gendarmes qui sont impliqués, alors que souvent, c'est quand même des mises en danger un peu plus indirectes. Ce cas, il est important pour tous les autres, quoi.
Blessing Mathieu est décédé le 9 mai 2018 entre Clavière et Briançon, dans le village de La Vachette, à la frontière italo-française. Pour les exilés qui arrivent illégalement en Europe et qui veulent se rendre en France, le plus souvent après avoir traversé la Méditerranée sur des bateaux de fortune, quasiment 30 000 morts noyés en 10 ans, le passage des Alpes et l'arrivée à Briançon est l'une des routes principales. L'une des plus surveillées aussi. Encore aujourd'hui.
En 2018 comme aujourd'hui, des soutiens aux exilés donnent des conseils pour faciliter le passage dans les montagnes, organisent des maraudes pour venir en aide à celles et ceux qui sont perdus, ouvrent des squats pour permettre l'accueil. À cette époque, des militantes et militants ont ouvert les portes d'une église à la frontière, dans le petit lieu-dit de Clavière. Ce squat s'appelle « Chez Jésus ». Blessing et ses deux amis y étaient passés. Ibrahim aussi. Ibrahim, nous l'avons rencontré en octobre 2018, à Lyon, quelques mois après la mort de Blessing Mathieu. Il a parcouru la même route qu'elle.
Bah, moi, c'est Ibrahim. J'ai 17 ans et je suis ivoirien malien d'origine. Bah, je suis arrivé en France il n'y a pas très longtemps de cela, juste quelques semaines. Je suis passé par Clavia, c'est la frontière de la France et l'Italie. C'est une ville où il y a assez de montagnes et de Clavia à Briançon. Là, je suis venu direct ici à Lyon. Quand nous sommes arrivés déjà à Clavia, on était une vingtaine de jeunes qui avons voulu rentrer en France. Nous étions tous fatigués parce qu'on avait passé près de 2 à 3 jours dehors, sans l'eau, sans ni rien. Et des gens nous approchaient et nous disaient on peut aller se reposer d'abord dans une église. Bah, l'église, je crois, c'est une squat, que les gens disent, c'est une squat qui accueille les immigrants, qui essaie de passer la frontière, donc et ils viennent en aide en cas de nourriture, de tout et tout, tu vois. Et ils nous ont donné à manger, moi, j'ai voulu me laver, tout et tout, et tu vois, ils nous ont bien accueillis là-bas. Ils nous ont donné des informations à comment est-ce que traverser la frontière et nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. La dernière ville avant de rentrer à Briançon, la police a voulu nous arrêter et du coup nous sommes dispersés. On a commencé à se cacher dans la brousse et du coup ils sont partis. Quand ils sont partis, on a repris le chemin. Ces gens qui essaient d'aider les migrants, c'est des gens bien. Moi, avec le groupe que j'étais avec eux, nous nous sommes perdus sur la montagne à plus de 3 reprises. Heureusement qu'on avait le numéro de l'un d'entre eux qui essayait de nous indiquer quoi faire. À chaque fois qu'on se perdait, on les fait appel. Parce que déjà, je n'ai jamais grimpé à une montagne et tout. Ce qu'ils nous ont expliqué, ça m'a donné beaucoup de force pour pouvoir rentrer à Briançon. Dès que nous sommes arrivés dans la ville de Briançon, on a vu la police qui arrivait. On s'est dispersé jusqu'à 6h, 7h, nous sommes allés à la gare du train. Et du coup, c'est là qu'on a pris le train et Lyon. Depuis que je suis à Lyon, je dors dehors. Parce que je suis allé à la forum et tout. Je n'ai pas été hébergé, ils m'ont donné le rendez-vous et ils m'ont dit qu'il faut que je me débrouille pour avoir un dortoir. Et du coup, moi, je suis parti au jardin. En ce moment, on dormait au jardin. On dormait sous des tentes. C'est là, les gens ils nous ont aperçus là-bas et ils ont commencé à nous aider comme ils le peuvent. Bah, depuis, on n'est plus là-bas. Nous sommes à Lyon 4. On nous a indiqué un ancien collège qui est à l'abandon. Donc, du coup, nous sommes là ici. Ça vaut près de 2 à 3 semaines.
Nous, on accompagne des mineurs isolés. Là, pour l'instant, il y en a une centaine au collège Maurice Sève. Collège qu'on a ouvert il y a 2 semaines maintenant pour des jeunes mineurs isolés africains, des garçons qui dormaient depuis 3 semaines, 1 mois dans le camp de la Croix-Rousse. En fait, ils dormaient sur l'esplanade, dans le jardin de l'esplanade, dans des tentes. Nous, on les a rencontrés parce qu'on accompagnait des familles moldaves qui dormaient place Satonet et puis place Colbert. Et du coup, bah, on a rallié un peu les accompagnements. Et en plus, ils étaient menacés d'expulsion par les flics sans solution de relogement ni d'hébergement. Et donc, du coup, nous, on a décidé d'ouvrir un lieu parce qu'on savait très bien qu'ils allaient se retrouver en périphérie sans solution.
Le lieu qui est alors ouvert est un collège abandonné sur le plateau de la Croix-Rousse, le collège Maurice Sève. L'ouverture a lieu en septembre 2018. C'est à cette époque que l'on a enregistré cette personne qui a participé à faire vivre l'accueil dans ce lieu. Déjà à l'époque donc, des mineurs exilés ne sont pas pris en charge par les pouvoirs publics qui les laissent dormir à la rue. Déjà à l'époque, ces jeunes exilés ont passé plusieurs mois dans des tentes, dans les jardins des pentes de la Croix-Rousse. Déjà à l'époque, quelques habitantes et habitants du quartier et d'ailleurs se retroussent les manches pour leur donner un minimum de confort.
Dans ce quartier où nous sommes quelques-uns, quelques-unes à vivre, 8 ans plus tard, la situation n'a pas beaucoup changé.
Depuis 8 ans, plusieurs camps ont été installés et expulsés. Des squats ont été ouverts, puis fermés. Des associations de soutien ont été créées, comme par exemple le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse, qui naît lors de l'occupation du collège Maurice Sève. Régulièrement, le collectif continue d'organiser des goûters solidaires, des concerts, des tournois de foot ou de pétanque, pour visibiliser la situation des exilés à la rue et récupérer un peu d'argent pour acheter de quoi survivre.
Aujourd'hui, le 18 juin 2025, ça fait plus de 6 mois que les mineurs isolés vivent à deux dans des tentes dans le jardin des Chartreux, non loin de Radio Canu.
Quand ces jeunes arrivent à Lyon, ils passent un test de minorité à Forum Réfugiés. Dans 80% des cas, leur minorité n'est pas reconnue. Les jeunes se retrouvent alors à la rue, sans aucune prise en charge. Ni pour dormir, ni pour se nourrir. Rien. Souvent, ils font appel de cette décision. Ils essaient de récupérer leur acte de naissance en s'adressant à leur pays d'origine, ainsi que tout papier qui pourrait établir leur minorité. C'est ce dossier qu'un juge supervise lorsqu'a lieu, parfois plus d'un an plus tard, le recours.
Il y a encore peu, dans plus de 80% des cas, la minorité de ces jeunes était reconnue après le recours. Mais les directives politiques sous l'ère Retailleau se sont durcies. Les régularisations sont beaucoup plus rares.
Alors la vie à la rue se poursuit, longtemps, et les camps fleurissent dans les parcs et sous les tunnels des grandes villes.
Il y a quelques semaines, les soutiens et les jeunes exilés du parc des Chartreux organisaient un rassemblement Place des Terreaux à Lyon.
Bonjour, si certaines personnes veulent prendre la parole aujourd'hui, le micro est là pour ça. Si des jeunes veulent parler, si vous avez envie de vous exprimer à ce sujet ou de les soutenir, ben vous êtes les bienvenus. Voilà, on n'a pas fait de programme particulier, mais en tout cas, c'est un micro ouvert, donc c'est avec plaisir.
Il y a 25 000 logements libres à Lyon. Expliquer à un jeune mineur isolé de 17 ans, de 16 ans, il y en a certains, ils ont 14 ans, hein. Vous imaginez, 14 ans. Ils ont leur expliqué qu'il y a 25 000 logements libres à Lyon et qu'on ne peut pas loger 300 mineurs isolés. Enfin, excusez-moi, mais je trouve ça complètement incompréhensible.
On est à Lyon, et précisément à l'hôtel de ville, place des Terreaux. Je suis là pour exiger à ce que j'ai un toit pour m'abriter. C'est ça. Bon, moi, je suis jardin des Chartreux. Je suis là depuis 2 mois. Je suis un mineur à la rue. On ne m'a pas reconnu mineur. Je suis en procédure de recours, mais là, je dors dans le campement. Il y a plus de 280 personnes. Nous dormons sous des tentes, à deux par tente. Je n'ai pas quoi manger. Pour avoir à manger, je suis obligé de me déplacer dans des restaurants sociaux. Pour me laver, c'est pareil. Donc, je n'ai pas aussi une carte de transport. C'est très difficile dans le bus, dans le métro, c'est très, très compliqué. Bon, moi, je suis né en Guinée. Et de là-bas, moi, j'entendais parler de la France. Moi, vraiment, je pensais qu'une fois en France, c'était plus que ça. Je n'avais jamais imaginé venir vivre en France sans abri, sans avoir à manger.
Pour nous, ce n'est pas des statistiques. Moi, je ne les considère pas comme des migrants, je les considère comme des enfants déjà.
Vous êtes arrivé comment, vous, à approcher ces collectifs, ces questions-là, intimement? Ça s'est passé comment?
En fait, je faisais une maraude à la base. C'était au square Sainte-Marie-Perrin. On récoltait des dons pour pouvoir faire manger, pour donner aux sans-abri. Peu importe l'origine, la couleur de peau, hein, un sans-abri. Ça peut être un SDF, comme ça peut être un migrant. Après, quelqu'un qui a faim, qui a la rue, il a faim. Quoi. À la limite, qu'il vienne de France ou qu'il vienne d'ailleurs, on s'en fout, il a faim. Enfin, on faisait des maraudes à la Part-Dieu. Il y avait un squat à côté de la TCL. Et puis, ils ont été expulsés. Et puis, il y a une bénévole qui est passée par hasard devant le square Sainte-Marie-Perrin. Mais elle nous a dit, tiens, il y a des mineurs isolés là-bas. Ah, du coup, on a été les voir, puis on leur a donné manger. Et puis, j'ai continué à voir les jeunes. Je les voyais à l'extérieur. On allait manger des kebabs, faire découvrir des kebabs. On les sortait, on allait se promener. Voilà, après, je me suis lié d'affection pour eux. Et puis après, j'ai suivi ceux qui restaient au square Béguin. Puis maintenant, je suis jardin des Chartreux. Jardin des Chartreux, il a beaucoup changé parce qu'au début, fin janvier, il y avait une vingtaine de tentes à peu près. Et puis une semaine après, il y avait encore plus de tentes. Maintenant, il y a 123 des tentes, je crois. Et puis, le jardin des Chartreux, il est assez bien tenu parce que les jeunes, ils savent que c'est là où ils dorment, c'est là où ils vivent. Donc, ils essayent de faire en sorte que ça reste propre. La mairie du premier arrondissement, ils ont fait installer 5 toilettes sur le trottoir, 4 points d'eau. Il y a la Mecque qui est juste à côté, la petite maison, la Mecque avec des associations. Ils ouvrent tous les soirs pour que les jeunes puissent recharger leur téléphone, préparer du thé. Cet hiver, en plus, ils ont pu se réchauffer à la Mecque. Non, mais franchement, c'était un respect. Mais bon, il y a une grande tradition d'aide à la Croix-Rousse.
Et on a besoin de votre soutien financier aussi pour pouvoir supporter les frais pour, par exemple, le campement, les tentes, quelques bricoles, on va dire, nécessaires pour la survie des garçons. Donc, toute aide est la bienvenue aussi.
S'il vous plaît, nous vous demandons de nous aider à avoir un endroit où passer la nuit. Parce que nous dormons de partant. Donc, je vous remercie, madame, monsieur, de vous aider à passer l'information.
On nous dit que la France est un pays de droit. Nous, qui sommes au campement là-bas, c'est-à-dire au jardin Chartreux, nous ne voyons pas cela. Et tu te réveilles le matin fatigué. Et en plus, il y a certains qui, de passage, qui nous agressent et nous traitent de tout, quoi. Moi, si ce n'est pas le week-end, du lundi au vendredi, quand je me réveille le matin après avoir fini de faire mes toilettes, je pars recevoir la Coupe de France mise à niveau. Pour ne pas que je reste au campement comme ça sans faire quelque chose.
J'y vais 3-4 fois par semaine, le soir ou le week-end. Et puis il y a d'autres personnes qui vont aussi à des degrés différents, avec une manière différente d'aider. Il y en a certains, ils récupèrent beaucoup de vêtements pour laver le linge. Il y en a d'autres, ils peuvent prendre leur douche chez eux. Il y en a d'autres, ils viennent pour emmener à manger. Il y en a d'autres qui viennent pour parler, pour aller se promener avec eux. Donc après, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et les bénévoles du soutien Croix-Rousse, ils les aident matériellement souvent. Donc ils leur emmènent des vêtements, ils leur emmènent des téléphones, des baskets, des choses comme ça, à manger. Donc ils n'ont pas trop le temps non plus de passer des heures à discuter avec eux. Donc moi je suis un peu l'oreille, quoi. Donc moi j'y vais, je discute avec eux, je mets mon wifi en libre service pour aller sur internet. Moi je suis pas un super héros, hein, je fais rien d'extraordinaire. Hein. Je fais juste une petite chose. Après s'il y a des gens qui veulent venir les voir au jardin des Chartreux, n'ayez pas peur, ils veulent juste aller à l'école. Avoir une belle vie, se marier, payer des impôts, comme disait un jeune la dernière fois. Une vie d'un jeune normal, quoi. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est comme ça, c'est la situation. Sauf qu'en Afrique, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une vie en dehors de la pauvreté, la plupart du temps, parce qu'ils viennent de familles pauvres. Hein. S'ils sont là, c'est qu'ils viennent de familles pauvres. Hein. Juste les regarder, déjà. Ça leur permet de les re-humaniser, juste les regarder. Et pas passer à travers comme s'ils n'existaient pas. Voilà, c'est tout.
8 ans de passage de la frontière franco-italienne, d'accueil improvisé en France et de contre-enquête sur la disparition de Blessing Mathieu.
Durant cette émission, on a écouté Daf Mamadef avec Kalanak.
On a aussi entendu Practica, le titre Balani Factory, des titres qui sont produits par le label lyonnais Blanc Manioc, comme ce qu'on écoute là.
Et on a aussi entendu Johanna Bossard, Les Marais de la Petite Lune.
Des infos à présent, vendredi 20 juin, à 18h, le collectif 69 de soutien aux réfugiés, aux migrants, migrantes et Bouchtapref 69 vous invite à une réunion publique contre la casse des droits des étrangers et des étrangères, et c'est à la Bourse du Travail.
À Lyon.
Le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse a besoin de votre aide financière. Il dépense plus de 4000 euros par mois pour les tentes et les fluides, eau, électricité, gaz, où des mineurs à la rue ont pu trouver de manière très précaire refuge. Faites des dons au collectif via leur Eloasso. Tapez Eloasso Soutien Migrants Croix-Rousse dans votre moteur de recherche et rendez-vous au Dimanche solidaire des Pentes de la Croix-Rousse ou aux autres événements organisés.
Des rencarts, il y en a aussi autour de la frontière italo-française. Les lieux de soutien et d'accueil ont besoin de votre aide. Continuez à soutenir par exemple le squat chez Marcel à Briançon, menacé d'expulsion. Un squat debout depuis 2017.
Et toujours en soutien à celles et ceux qui se bougent pour faire de Briançon une ville d'accueil, vendredi 20 juin, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à rejoindre la soirée de soutien pour le refuge solidaire de Briançon. La soirée a lieu au Shakirai de 18h à 22h30, 72 rue Riquet dans le 18e arrondissement. Le refuge solidaire de Briançon est menacé de fermeture. Ses finances sont dans le rouge.
Retrouvez les 224 émissions de Mayday sur les audioblogs. Et dans un instant, il se passe quoi ?
C'est les infos.
Nous, on revient la semaine prochaine, pas vraiment en direct, pour une rediffusion. Ne vous inquiétez pas, on va chérir vos oreilles. Et pour le dernier direct de l'année, ça sera quelle date ?
Le 2 juillet.
Allez, bisous.
Bisous.